Bonsoir. Province du Nord Kivu, le gouvernement congolais se réjouit de la performance des FRDC dans la traque des rebelles ougandais de l'ADF. Le porte-parole du gouvernement, qui a tenu une conférence de presse vendredi dernier à Kinshasa, a confirmé que le quartier général de ces rebelles a été détruit complètement et plusieurs localités ont été récupérées. Comment analyser cette situation? Que faire pour consolider les acquis de cette victoire des FRDC? Nous en parlons avec Lambert Mende, il est ministre des médias et porte-parole du gouvernement central. Bonsoir monsieur le ministre Lambert Mende.
Bonsoir.
Thomas Dakin-Mouiti, le président de la société civile du Nord Kivu. Bonsoir monsieur Thomas Dakin-Mouiti. Il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Professeur Virgence, Pierre Virgence, il est professeur à l'université de Liège en Belgique et à l'université de Butembo en RDC. Bonsoir professeur Pierre Virgence.
Bonsoir.
Plusieurs réactions, parmi lesquelles celle de Innocent Armand Kondoli de Kinshasa. Cette victoire n'est qu'une goutte d'eau dans la campagne de pacification de l'Est de notre pays. La traque doit se poursuivre afin de sécuriser ces localités et permettre à la population d'y revenir. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Depuis vendredi dernier, les FRDC contrôlent plusieurs bastions des rebelles ougandais de l'ADF, basés dans les territoires de Beni. Ceci, un mois après le lancement de l'opération Sukola pour le désarmement de tous les groupes armés actifs dans la zone. Selon des sources coutumières, pour l'instant, certains rebelles ougandais de l'ADF se sont retirés dans les massifs de Rwenzori et les parcs nationaux de Virunga pour tenter de se réorganiser. De son côté, l'armée rassure, les ADF seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Une dizaine de localités et villages sont sous contrôle des FRDC depuis le lancement de l'opération Sokola. Selon des sources militaires et locales, dans les secteurs de Benimbaou, les villages sous contrôle de l'armée sont Maïsafi, Mamundioma, Nadui, Atukaka, Totolito, Abialos, Parikingi, Tedeu, Chuchubo, Makoyova 1 et 2. D'après les mêmes sources, dans la chefferie de Watalinga, les FRDC contrôlent les localités de Mukakati, Katibombo, Kibele, Kitimba, Nobili et Kamango. Une autre position importante reprise par les FRDC se trouve au pont Semuliki. Ici se trouvait une entrée de ravitaillement menant vers les bases des ADF à partir du parc national de Virunga, selon plusieurs sources sécuritaires et de la société civile. Depuis vendredi dernier, les FRDC contrôlent également tout l'axe Mbao-Kamango, long d'environ 65 km. S'étale ici des violents combats d'environ une dizaine de jours. Selon des sources coutumières, les ADF défaits dans leur base, se sont installés en groupe dans les massifs de Rwenzori et les parcs nationaux de Virunga. L'objectif serait de se réorganiser pour passer à une contre-offensive, précise ses sources. Mais les porte-parole des FRDC au Nord Kivu rassurent, l'armée est déterminée à poursuivre ces rebelles ougandais jusque dans leur dernier retranchement. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Monsieur Lambert Mende, je rappelle que vous êtes ministre des médias et porte-parole du gouvernement central. Les FRDC contrôlent plusieurs bastions des rebelles ougandais de l'ADF. Et comment analysez-vous ces victoires de l'armée nationale?
Il faut dire que ces victoires s'inscrivent dans le droit fil de ce qui a été fait plus au sud, avec les bastions de Nyiragongo et de Rutshuru qui étaient naguère sous le contrôle des M23. L'armée a été réorganisée. Elle est montée en puissance depuis 2009. Comme nous l'avons dit après les victoires contre le M23, il n'y a pas à chercher des miracles. C'est le travail qui a été fait par le président Joseph Kabila, le commandant suprême des forces armées, qui a patiemment tissé sa toile depuis 2009, pendant que certains compatriotes multipliaient les colibets contre lui, contre le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons le résultat de ce professionnalisme auquel l'armée a été astreint et qui va pouvoir de plus en plus augmenter le niveau de sécurité auquel nos populations ont droit.
Oui, vous dites que c'est la suite logique de la défaite du M23, mais comment êtes-vous parvenu à infliger des lourdes pertes à ces rebelles quand on sait que, contrairement au M23, les ADF, Nalou, en fait des ADF, c'est un mouvement qui utilise souvent des techniques de guerre non classiques, et certains experts disent qu'ils utilisent souvent les techniques de la guérilla, et un autre facteur est que leur chaîne de commandement ainsi que leur source d'approvisionnement ne sont pas connues. Évidemment, on ne va pas vous demander d'étaler les stratégies militaires, mais comment êtes-vous parvenu, n'est-ce pas, à traquer ces mouvements rebelles?
En peu de mots, il a fallu simplement s'adapter justement à cette nature des ADF. C'est pourquoi nous avons enregistré la création par le président d'unités nouvelles, les unités commando notamment, qui ont une capacité de projection assez rapide, qui ont aussi une capacité de s'adapter aux conditions de lutte de guérilla. Ce n'est plus simplement des fantassins qui combattent à partir de trous de fusiliers. Les commandos ont cette capacité-là de s'adapter à des situations les plus diverses, que ce soit le combat en montagne, que ce soit le combat en zone de forêt, en zone de marécage. C'est l'avantage justement de cette grande réorganisation à laquelle l'armée a été soumise. Je peux me limiter là.
Et lors de votre point de presse de la semaine passée, vous avez annoncé le démantèlement total du quartier général des ADF. Peut-on aujourd'hui affirmer sans risque d'être contredit que les ADF sont désormais vulnérables et qu'ils ne peuvent plus se permettre, n'est-ce pas, de défier l'État congolais?
Ils ont perdu la plus grande partie de leur capacité. C'est comme si on avait coupé l'épine dorsale à un corps. Il peut encore rester en vie. Nous en avons eu la preuve avec l'embuscade qui a coûté la vie à un de vos confrères, le journaliste de Oicha. Mais dire que l'ADF aurait encore la capacité de se réorganiser lorsqu'on dit qu'il bouge vers Rwenzori, il faut achever l'analyse. Ils sont en train de bouger vers leur pays. C'est ce que nous voulons. Les objectifs de l'offensive, c'est de les pousser à sortir du Congo. Ils n'ont rien à faire au Congo. Nous ne nous battons pas uniquement pour les désarmer. Nous les battons pour les faire sortir du Congo, parce que ces gens n'ont rien à faire au Congo. Et s'ils poussent vers le mont Rwenzori, vers le Queen Elizabeth Park du côté de l'Ouganda, c'est une bonne chose pour nous. C'est quelque chose qui nous rapproche de l'objectif final.
Oui, nous avons la réaction de Maître Mouindo Jules César Mouteba de Boutembo Nord-Kivu qui dit ceci, que le même gouvernement qui se réjouit des performances des forces armées nous donne la vraie information sur les otages et notamment les prêtres qui avaient été enlevés par ces forces négatives.
Nous l'avons dit depuis hier qu'il y a un rapport qui est attendu de la part de l'état-major. Annoncer le démantèlement d'un quartier général comme Nadoui, ça peut se faire dans les minutes qui suivent le démantèlement du dit quartier général. Donner des nouvelles des otages qui sont répartis en plusieurs petits hameaux et dont il faut laisser le commandement militaire local mettre en place toutes les informations concernant l'identification des uns. Y en a-t-il qui ont été tués? Y en a-t-il qui ont été amenés avec les forces négatives dans leur fuite? Y en a-t-il qui se sont enfuis d'eux-mêmes? Il faut qu'ils conviennent qu'il faut quand même un peu de temps. Ce n'est pas dans la cour des miracles que nous nous trouvons. Donc nous sommes dans l'attente des rapports actualisés de l'état-major et que je peux le rassurer que ce sera mis à la disposition des familles d'abord et puis à la disposition du grand public après.
Monsieur le ministre, nous allons écouter pour vous cette réaction qui vient de Beni au nord Kivu.
Gérard Kambale Kazingoufo de la ville de Beni. Je pense que le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, doit avoir beaucoup plus de réserves et éviter des précipitations dans ses déclarations, surtout par rapport à la situation sécuritaire de Beniville et territoire. Vous savez qu'en plus de l'assassinat de l'agent de la MONUSCO à Beni, à 8h, en pleine ville s'il vous plaît, et de l'embuscade Tandi qui vient de nous emporter notre journaliste sur les Trosso Kamango, hier à 19h, à côté de chez moi à Beni s'il vous plaît, des obis dont l'origine reste encore à déterminer sont tombés à 700 et 1000 mètres du repoint ville de Beni sur l'axe Beni-Kassindi, faisant plus de 5 blessés.
Monsieur le ministre, votre réaction?
Je me demande ce qu'il veut dire par là. Qu'est-ce que ça change aux communications que je suis en train de faire au nom du gouvernement et qui ne sont en réalité que le reflet des rapports que notre personnel nous donne sur le terrain? Moi, je parle au nom d'un gouvernement qui utilise un personnel militaire qui est en train de se battre Donc je donne la lecture de nos officiers qui sont sur terrain et qui font rapport, non pas à mon compatriote qui vient de parler, mais qui font rapport à mon gouvernement. C'est pourquoi je suis payé pour en parler au pays. Alors qu'il y ait des obus qui soient tombés hier, quel est le lien avec le droit que moi j'ai comme ministre chargé de la communication du gouvernement, de communiquer les informations qui viennent de l'armée du gouvernement, sincèrement. Il ne faut pas chercher de disputes là où il n'y a même pas de raison de se disputer. Ça, c'est sincèrement chercher la petite bête, inutilement.
Oui, monsieur le ministre, quel est le bilan de ces affrontements sur le plan humain, sur le plan matériel?
Jusqu'à la fin de la semaine dernière, le bilan provisoire était de 22 morts du côté des FRDC et de 230 morts du côté des assaillants. Nous avons perdu aussi un véhicule sur lequel était montée une mitrailleuse. Nous avons aussi récupéré pas mal d'armes que les rebelles ougandais détenaient, 69 fusils conventionnels, beaucoup de bombes artisanales qu'ils ont fabriquées, et des médicaments, des vélos, des motos. Donc ce sont des choses qui ont été comptabilisées. J'aimerais vraiment dire à nos compatriotes qu'il faut cesser de chercher à dire à un ministre ce qu'il doit faire. Je sais très bien ce que j'ai à faire et ce n'est pas parce que quelqu'un ne m'aime pas qu'il m'empêchera de faire mon travail.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Thomas Dakemwiti, je rappelle que vous êtes président de la société civile du Nord Kivu. Vous, comment vous analysez ces victoires des FRDC sur les ADF Nalou? Allô, Thomas Dakemwiti? Apparemment, nous l'avons perdu. Professeur Pierre Virgens, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Butembo en RDC. Votre analyse par rapport aux performances des FRDC contre les ADF Nalou?
Mais je pense que effectivement, le ministre Mende, je salue en passant, fait bien de dire qu'il y a eu une vraie réorganisation de l'armée congolaise. Mais il faut aussi mettre en évidence d'autres facteurs, notamment la montée en force du côté de la MONUSCO, l'organisation réelle de liens entre la MONUSCO et l'armée congolaise, la MONUSCO elle-même donc qui a plus de moyens parce que je pense que la situation dans l'est du Congo a été maintenant stigmatisé pendant longtemps au niveau international, et la communauté internationale, à un moment donné, n'a plus du tout accepté la position qu'un pays voisin prenait dans le pays. Et c'est vrai que ce qui se passe maintenant, c'est dans la foulée de ce qui s'est passé contre le M23, et très clairement, il y a eu un énervement du côté américain, un énervement du côté allemand et MONUSCO, et on peut le dire aussi, un changement probablement d'alliance du côté de l'Afrique du Sud, qui maintenant est beaucoup plus systématiquement du côté de la République démocratique du Congo. L'ensemble de ces éléments interviennent évidemment pour expliquer que l'armée congolaise peut gagner une bataille, et on peut quand même rappeler que dans la bataille contre le M23, en fait, il n'y a presque pas eu de combat. Le M23 est parti à toute vitesse, et donc ce qui se passe, c'est une vraie démonstration de force dans différents endroits, et l'auditeur précédent avait raison de dire que cette démonstration de force n'est évidemment pas totalement efficace maintenant. Cette démonstration de force est toujours en train de se réaliser, et donc il y a effectivement toujours des victimes.
Oui, professeur Vivian, ce n'est pas la première fois que la FRDC remporte des victoires sur l'ADF. Et c'est vrai que vous avez évoqué la nouvelle donne, notamment la réorganisation des FRDC, la montée en force de la MONUSCO, le changement d'alliance. Mais vous ne pensez pas qu'il y ait des facteurs aujourd'hui qui peuvent faire que ces mouvements puissent se réorganiser et revenir en force?
Bien entendu, ça c'est clair qu'un mouvement armé peut toujours, s'il retrouve des armes et des munitions et des motivations pour ces hommes, il peut toujours revenir. Et là, ce sera aux Congolais, je dirais, à construire un lien très fort entre l'armée congolaise et le peuple congolais. L'armée doit être perçue par les gens comme un élément qui les protège et non pas comme un élément qui les exploite ou qui essaye de leur prendre de l'argent. Et dès que l'armée commence à travailler pour le peuple, là, il y a un lien très fort et le peuple donnera les informations à l'armée quand des groupes rebelles se redéploieront ou tenteront de se redéployer et l'armée pourra à ce moment-là jouer son rôle complètement.
Oui, professeur, il y a tout un débat dans la société par rapport à ces opérations. Les gens qui pensent que ces opérations sont menées de manière à pousser les ADFPA à rentrer d'où ils sont venus, c'est-à-dire en Ouganda, mais plutôt à rentrer davantage en RDC. N'est-ce pas là une faiblesse dans ces opérations?
Oui, mais c'est un peu la question de l'attaque et de la manière dont on attaque. Hein. Le mont Rwenzori est effectivement pas facile, je dirais, à attaquer. C'est vrai qu'il y a une série de redéploiements possibles. Et quand on attaque des gens pour les pousser ailleurs, il faut évidemment leur laisser le passage pour qu'ils puissent sortir. Si on les attaque en les enfermant, ils sont obligés de lutter et de faire demi-tour. Mais si on leur ouvre la porte et qu'on ne met pas d'hommes en armes vers le passage vers l'Ouganda, là on peut effectivement modifier la donne. Mais il est vrai aussi que l'armée avait besoin de montrer sa force et d'abord de montrer sa capacité de détruire les forces armées. Et là c'est vrai que voilà, il faut commencer par par des attaques massives. Et c'est après seulement qu'on peut commencer à diriger les opérations d'une façon plus subtile.
Donc si nous avons bien compris, dans une première phase, ce qui importe, c'est de montrer d'abord que les FRDC sont en mesure d'acculer, n'est-ce pas, de traquer ces mouvements rebelles.
Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la première phase, c'est la phase de démonstration de force, avec tous les communiqués, avec évidemment tout le travail du porte-parole du gouvernement qui crée un climat montrant aux Congolais qu'ils peuvent gagner. Et voilà, tout ce travail-là participe évidemment d'un matraquage militaire et moral des troupes qui occupent maintenant illégalement le territoire de la RDC.
Professeur Pierre Végence, nous allons prendre Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Lubumbashi au Katanga.
Yves Louboudi, j'habite Lubumbashi de la province du Katanga. La conquête des fiefs tenus par des groupes armés soulève une question primordiale quant à l'origine de leur arsenal militaire. Celle-ci doit être déterminée afin de mettre à nu les réseaux qui attisent le feu à l'est de notre pays. Ces armements découverts ne doivent pas être considérés comme un butin de guerre à brandir, mais plutôt de preuves authentifiant un appui extérieur aux groupes armés. D'où la nécessité d'une enquête de traçabilité afin de déterminer les véritables acteurs des atrocités que traversent nos frères dans l'est du pays.
Voilà, lorsqu'on fait face à ce genre de mouvements un peu particuliers, est-ce qu'il est facile d'établir une certaine traçabilité afin de déterminer des véritables acteurs des atrocités, afin de connaître, n'est-ce pas, de maîtriser leurs sources d'approvisionnement, leurs chaînes de commandement?
Oui, bien entendu, c'est-à-dire que la traçabilité n'est jamais totale, mais en connaissant effectivement qui a fabriqué l'arme, on peut remonter vers la personne qui l'a fournie en dernier lieu, et là, effectivement, on peut mettre en évidence des responsabilités dans la situation dramatique que la République démocratique du Congo traverse maintenant depuis presque 20 ans, et c'est vrai que il faut là que le Congo se prépare à accuser en amenant les preuves de la collusion de certains pays voisins. Ça, c'est un élément de responsabilité, je dirais, judiciaire. Alors, il y a un autre élément de pacification politique qui doit être mis en jeu, mais à un autre rythme et plus lentement.
Merci, Thomas Dakemwiti. Vous êtes président de la société civile du Nord Kivu. Comment vous analysez cette victoire des FRDC sur l'ADF?
Merci, Dimaté, pour la parole. Je voudrais d'abord saluer mes co-débatteurs. Ensuite m'acquitter d'un agréable devoir, celui de présenter les félicitations au FRDC et au président de la République, son Excellence Joseph Kabila, puisque lors de son passage au Nord Kivu, de son dernier passage au Nord Kivu, Nous lui avons sollicité que les opérations soient programmées contre les ADF, chose qui a été faite. Vous savez qu'il y a longtemps qu'il y a eu de militaires déployés et plusieurs programmes qui ont été décrétés sur le territoire de Béni contre les ADF, mais on a parlé de Rouezori, Safisha, des choses comme ça, mais qui n'a abouti à rien. Et donc, après avoir sollicité le chef de l'État, nous avons vu, bien entendu, après la victoire sur le M23 à Nyiragongo et à Rutshuru, nous avons vu le commando être déployé avec un arsenal militaire consistant. Et donc, nous avons l'obligation de dire félicitations au FRDC, félicitations au chef de l'État. Mais aussi, nous voulons, de manière particulière, dire merci au chef, au gouverneur de province, Julien Paluku, qui a été présent aux côtés des victimes, aux côtés de la population de Béni, pendant les périodes les plus difficiles que cette population traversait. Je pense que c'est pour moi une obligation de dire merci au gouverneur. C'est aussi pour moi un devoir de dire merci à la population qui a, dans cette première partie, contribué, qui a collaboré avec le FARDC. Vous savez, il y a eu un moment où la population considérait le militaire FARDC comme le premier ennemi, mais aujourd'hui, lorsqu'on commence à constater une certaine collaboration, je pense que c'est un élément important pour que le militaire atteigne son objectif, puisque lorsque la population est ennemie, il peut aussi protéger l'ennemi. Donc, il y a des choses qui ont été faites par les FARDC en ouvrant la route qui va de Oicha jusqu'à Kamango. C'est un exploit, c'est un travail de qualité. Le fait de détruire la base des ADF, c'est un travail qui doit être reconnu aux côtés de FARDC. Mais je pense que il reste aussi beaucoup à faire.
Voilà,
c'est ça mon analyse pour l'instant. Je ne sais pas, Guy, si vous avez un autre élément à me demander.
Oui,
mais
vous
je
avez
pense
suivi.
Que mon analyse jusque-là, c'est ça ce que je peux dire.
Mais c'est Thomas Dakiamouti, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement qui a annoncé le démantèlement du quartier général de l'ADF. Est-ce que cela suffit pour rassurer la population? Parce que souvent, on ne parle pas d'un seul quartier général, mais plutôt de plusieurs quartiers généraux de l'ADF Nalou. C'est vrai qu'on a démantelé un quartier général, peut-être qu'il y aurait d'autres quartiers généraux qui sont encore là.
Écoutez, Guy, je pense que je suis d'accord avec les porte-paroles du gouvernement en disant qu'il y a un grand travail qui a été réalisé par les FARDC, mais je ne suis pas d'accord quand il dit que vraiment tout est déjà rose et que les ADF sont en direction de l'Ouganda, donc on peut tourner les pouces. Je ne pense pas que ce soit... J'ai toujours dit qu'on ne minimise pas l'ennemi. L'ennemi, comme on a toujours dit, comme me disent les guerriers, l'ennemi, on l'écrase. Si vous minimisez... Et là, je donne un exemple, Guy, vous serez d'accord avec moi. Il y a quelques années, certaines personnalités de notre pays, même de la MONUSCO, nous ont dit que, en tout cas, les FDLR sont réduits, ils ne peuvent plus être constitués. Un problème que, et aujourd'hui, où en sommes-nous avec les FDLR? Je pense que ce que nous devons retenir, c'est de dire il y a eu des choses qui ont été faites et il reste encore d'autres qui doivent être faites. Et c'est ça, puisque l'ennemi, on ne le minimise pas. Quel que soit le nombre, quel que soit Le degré de nuisance qui est affaibli, l'ennemi reste ennemi.
Ça,
c'est un élément que je voudrais souligner, puisque ces gens-là, je vais vous dire quelque chose. On a parlé de plusieurs quartiers généraux qui ont été détruits, mais ces gens-là se sont retranchés, ils sont dispersés dans le parc national de Virunga. Ce sont des gens qui ne font pas une guerre classique. Ils font la guerre, ce qu'on appelle la guérilla. Et quand quelqu'un fait la guérilla, vous avez compris, on venait de récupérer le quartier général, le plus grand quartier général, mais pendant que les journalistes se rendaient de ce côté-là, ils ont été victimes d'une embuscade. Ça peut être la même chose contre les FRDC, lorsque nous pouvons dire que tous les tronçons d'Embao jusqu'à Mangina, c'est déjà résolu. Je pense qu'il ne faut jamais minimiser l'ennemi. Il faut tout faire pour l'écraser et le mettre hors d'état de nuire.
Monsieur le ministre, il y a un débat dans la société au sujet, n'est-ce pas, de ces opérations. Bon, les gens qui n'apprécient pas le fait que les opérations qui sont menées ne sont pas menées dans le sens de pousser les ADF à rentrer chez eux en Ouganda, mais plutôt les pousser à rentrer davantage en RDC.
C'est une fausse information d'abord, mais je voudrais, en saluant mon compatriote Toba Dakin, suggérer que les passions ne nous mènent pas à déformer parfois les propos des gens. Je ne me souviens pas dans toutes mes communications concernant ce qui vient de se passer à Beni, avoir dit « tout est rose, il n'y a plus qu'à se tourner les pouces ». C'est quand même extrêmement grave. J'ai dit que l'armée a reçu une mission en trois phases, que la première et la deuxième phase étaient achevées, nous sommes contents, mais qu'il reste une troisième phase, celle du nettoyage, celle du ratissage, celle de la consolidation pour chasser les éléments de l'ADF Nalu jusqu'à leur dernier retranchement. Alors, entendre quelqu'un que je respecte autant que M. Thomas Dakin Mouiti dire que le porte-parole du gouvernement a dit « tout est rose, il n'y a plus qu'à se tourner les pouces », je regrette un peu, c'est déformer mes propos. Hein, ce n'est pas ce que j'ai dit et je ne dirai jamais une chose comme ça, puisque même à Nyiragongo et à Rutshuru, il y a parfois des saillies, il y a parfois des gens qui font des attentats. Donc le gouvernement n'est pas si bête que cela pour croire que le fait d'avoir détruit Nadoui résout à lui seul tout le problème. Pas du tout. Il ne faut pas que nous nous surchauffions, nous devons tous coopérer pour mettre fin à cette situation qui est humainement inacceptable. C'est le but du gouvernement. C'est le but de la société civile, c'est le but de tous nos amis qui sont à travers tout le pays. Il n'y a aucune stratégie qui pourrait, de la part des forces armées, permettre aux ADF Nalu d'aller ailleurs que vers l'Ouganda. S'il y en a qui vont ailleurs que vers l'Ouganda, c'est à l'insu des forces armées et en un nombre tout à fait peu significatif. Le gros, comme le témoignage des chefs coutumiers que j'ai entendu à l'ouverture de votre émission l'indique, s'est dirigé vers le mont Rwenzori. Et le mont Rwenzori, ce n'est pas en province orientale, le mont Rwenzori, c'est dans la bonne direction
pour
nous.
Monsieur le ministre.
Ils n'ont pas encore quitté le pays, mais c'est vers l'Ouganda. Et c'est vers là que nous les poussons. Il ne faut pas m'amener aussi à dévoyer, déclarer publiquement les stratégies de l'armée, mais c'est dans le même sens. Nous sommes d'avis, du même avis que les compatriotes qui vous ont posé cette question, et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Monsieur le ministre, nous allons passer à la deuxième partie de cette mission. Que faire pour consolider les acquis de cette victoire des FRDC? Depuis vendredi dernier, les FRDC contrôlent désormais tous les grands bastions des rebelles ougandais de l'ADF et la localité de l'axe Mbau-Kamangu. Depuis 4 jours, les autorités administratives et locales appellent les populations à retourner dans ces zones libérées par les FRDC. Mais cependant, des dizaines de localités et villages ont été détruits pendant l'occupation rebelle. Plusieurs défis restent à relever pour accompagner les retours de la population dans les secteurs de Benimbaou et la chefferie de Walinga. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Les premiers défis est tout d'abord la consolidation des positions reprises par les FRDC dans les secteurs de Benimbaou, c'est dans les villages de Totolito, Maïsafi et les sanctuaires de Nadui, Mwalika, Chuchubo, Makoyova 1 et 2. Ici, les ADF disposaient d'importantes bases et quelques centres d'entraînement selon plusieurs sources sécuritaires et militaires. Cette consolidation des positions de l'armée devrait également se faire sur l'axe Mbaou-Kamango, resté sous occupation des ADF pendant plus de 2 ans. Le second défi est l'accompagnement par les gouvernements des populations civiles pour un retour dans les zones libérées par les FRDC. Selon l'administrateur du territoire de Beni, pendant l'occupation rebelle, plusieurs maisons ont été détruites et incendiées dans une dizaine de localités et villages. Amissi Kalonda parle de Kamango, Mamundioma, Atukaka, Abialos, Totolito, Makembi, Nadui, Parikingi, Kasuku, Tedeu et Kelekele. La réhabilitation de l'axe Mbaou-Kamango s'avère aussi indispensable suite à son intérêt socio-économique. Cette route relie les secteurs de Benimbaou et la chefferie de Watalinga où l'on cultive les cacao, les cafés et la vanille. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Monsieur le ministre Lambert Mende, deux défis majeurs, la consolidation des positions reprises par la FRDC et l'accompagnement par le gouvernement des populations pour qu'elles retournent dans les zones libérées.
La consolidation des positions relève des stratégies des forces armées et la déjà débuté, dès qu'on a pu mettre en déroute de ces positions-là les éléments ADF qui sont en train d'errer, en train de commettre des guet-apens, des embuscades ici et là. Maintenant, le problème qui relève des autorités politiques, des autorités administratives et civiles, c'est l'accueil des populations qui doivent rentrer. Ce sont les enquêtes concernant les personnes qui avaient été enlevées, qu'est-ce qu'il en est advenu, combien sont encore aux mains de ces forces négatives, combien peut-être sont en train d'errer dans les forêts depuis qu'on a détruit les endroits où ils avaient été détenus. C'est un travail d'enquête de fond qui doit avoir commencé et nous apprécions que sans perdre beaucoup de temps, l'administration locale ait lancé un appel à ces populations pour qu'elles puissent rentrer, puisque tant qu'elles ne sont pas rentrées, on ne sait pas envisager ni la remise en ordre, c'est-à-dire la réhabilitation de ces zones, ni les enquêtes pour savoir ce qui arrive à nos compatriotes qui ont été enlevés.
Monsieur Thomas Dakemouti, que faire pour consolider les acquis de cette victoire des FRDC? Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bounia en province orientale.
Thierry Zaberon, à partir de Bounia en province orientale. Je pense que le démantèlement de la base des ADF est loin d'être un succès car, en les délogeant, ils regagnent d'autres zones qu'ils contrôlent. On parlerait succès si leurs zones étaient encerclées.
Monsieur Thomas Dakemouti?
Je pense que les compatriotes qui viennent d'intervenir, on ne peut pas, dans une émission comme celle-ci, traiter les concepts, les mots. On ne peut pas parler d'encerclement de bases des ADF, alors que les bases dont question ont été récupérées par les FRDC. Je pense que c'est l'élément important que les compatriotes devraient retenir. Certaines bases, certains quartiers généraux qui étaient détenus par les ADF ont été récupérés bel et bien par les FRDC et nous les avons félicités pour ce grand travail, pour cette bravoure. Peut-être que les compatriotes pouvaient parler d'autres choses, mais je pense que on n'est pas en train de jouer au vocabulaire dans l'émission.
C'est
important qu'on puisse souligner cela comme ça.
Monsieur Thomas Dakemouti, nous avons une réaction des Kabayou de Manono Katanga qui dit ceci, tout en saluant les performances des FRDC qui vont toujours de l'avant depuis leur victoire sur les M23, je pense que pour consolider la nouvelle victoire sur les ADF, le gouvernement devra agir sur les renforcements des relations diplomatiques avec ses voisins de l'Est.
Oui, le compatriote qui a donné cette suggestion a tellement raison. Et je pense que cela a été parmi les options choisies par les chefs de l'État et ça évolue positivement. Nous l'avons toujours répété, même dans vos émissions. Nous avons toujours dit que pour que la paix revienne dans la sous-région, donc entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, il y a du travail qui doit être fait. C'est soit réunir les éléments de preuve pour intenter des actions en justice contre ces États, des suites de tout ce que nous subissons de la part de ces États-là, qui ne veulent pas que la paix revienne, qui entretiennent des actions pour déstabiliser la paix et la quiétude de la population sur cette partie du territoire de la RDC. Mais si cela ne peut pas être fait, qu'on organise des séances, qu'on se mette autour d'une table, pas en tenant compte de ce qui s'est fait au niveau de la CIRGL. On peut organiser des séances pour parler avec le Rwanda, l'Ouganda, pour savoir qu'est-ce qui doit être fait pour qu'il nous donne la paix. Par exemple, la RDC. J'en ai parlé la journée d'aujourd'hui avec un diplomate pour dire la communauté internationale, quand elle est avec la RDC depuis 2001, 2003, 2008, avec toute la pression que subit le gouvernement congolais pour que le gouvernement se mette autour d'une table avec ses belligérants. Pourquoi cela ne doit pas être fait de l'autre côté, en Ouganda et au Rwanda? Pourquoi seulement en RDC? Pourquoi on peut obliger la RDC d'amnistier chaque fois des bandits, des criminels, mais on ne peut pas les dire aux autres pays voisins?
Merci.
Et donc, je pense que le collègue, l'ami qui a posé la question, il a raison. Nous l'avons toujours dit, nous le répétons. Si on peut arriver à faire quelque chose avec les pays voisins pour qu'on ait la paix et la paix durable, ce n'est pas mauvais. Au niveau de la société civile, on est en train de planifier certaines actions avec les voisins, les acteurs de la société civile des pays voisins. On va voir ce que cela pourrait accoucher, mais je pense que c'est important ce qu'il a donné comme proposition.
Merci, professeur Pierre Vengeance. Que faire pour consolider les acquis de cette victoire des FRDC?
Je crois donc qu'il faut, comme l'a dit le ministre, rassurer la population, lui permettre de revenir sur ses terres, de recommencer à travailler, et à ce moment-là, il y aura peut-être un lien de confiance entre la population et l'armée. Et la population informera l'armée quand il y aura un risque d'invasion par un nouveau groupe militaire. Ça, c'est un élément. Autre élément, c'est vrai qu'il faut s'apprêter à négocier sur le plan international, mais il faut savoir que cette négociation va être difficile dans un tout premier temps, parce que le Congo est en train de changer le rapport de force. Jusque maintenant, les pays voisins considéraient le Congo comme un pays dans lequel on pouvait rentrer sans problème et où on pouvait en fait aller piller quand on voulait. Et donc le changement de rapport de force sera évidemment difficile à vivre pour les dirigeants rwandais et ougandais. Mais il faut qu'ils en tiennent compte, ce sont des dirigeants apparemment très rationnels et donc on peut penser qu'ils vont s'apprêter à discuter à partir du changement des rapports de force. Donc ce ne sera pas une négociation simplement dans la bonne humeur, ce sera une négociation en fonction d'un rapport de force qui vient d'être modifié d'une façon globale. Et alors je pense qu'il y a aussi tout un travail à continuer du Congo vers la communauté internationale pour informer des circonstances précises, comme on évoquait tout à l'heure, de l'arrivée des armes qui ont permis à ces groupes de proliférer et de montrer effectivement qu'il y a des responsabilités dans les massacres qui viennent de se dérouler pendant 20 ans maintenant dans l'est de la République démocratique du Congo.
Professeur Pierre Vengeance, il y a Maître Adrien Ilobakwe de Kananga au Kasaï occidental qui dit « La victoire des FRDC sur les ADF est une bonne chose, mais ne perdons pas de vue que la victoire militaire est éphémère car on ne sait pas là où vont ces rebelles. D'où il est important d'envisager la voie politique et diplomatique. »
Oui, bien entendu, c'est ce que nous venons de dire tous les trois, je pense. Ça paraît clair qu'une victoire militaire toute seule ne suffit pas. C'est une condition indispensable pour renverser le rapport de force et pour discuter. Mais il faut maintenant discuter avec des objectifs précis et avec des volontés de réintégration des groupes armés là d'où ils viennent.
Et donc effectivement, il faut s'apprêter à discuter d'une façon qui ne sera pas facile avec les pays voisins.
Monsieur le ministre Lambert Mende, que dites-vous à ceux-là qui pensent que pour solutionner efficacement ces genres de problèmes, il faut nécessairement associer les pays d'origine de ces rébellions?
Mais ils ont tout à fait raison. D'ailleurs, notre président a toujours dit que toutes les trois options sont sur la table. L'option militaire, qu'on lui reprochait naguère de ne pas faire jouer suffisamment, alors qu'en réalité il préparait la montée en puissance de l'armée et qui vient de fonctionner à Nyiragongo, à Rutshuru et maintenant est en train de fonctionner au niveau de Beni. L'option politique, on a eu les concertations nationales, des gens sont venus, on a parlé, nous sommes en train de mettre en œuvre les résolutions qui sont sorties de ces concertations. Et puis il y a l'option diplomatique. Nous avons été à Kampala, on a signé une déclaration à Nairobi et nous sommes dans la CIRGL au contact avec les deux pays problématiques et nous allons continuer ces contacts-là pour arriver à les impliquer, à renoncer à leur funeste projet depuis toujours. Le fait que cela s'inscrive dans un contexte où le rapport des forces est en train d'évoluer n'est pas pour nous déplaire, ça peut même les aider eux-mêmes à prendre conscience des nouvelles réalités et à limiter les souffrances et de notre peuple et d'une partie de leur peuple. Donc nous pensons que les trois options se valent, elles ne peuvent être pour rien au monde abandonnées, on ne peut pas préférer une option à toutes les deux autres options.
Monsieur le ministre, il y a Robert Baume de Bukavu Sud Kivu qui dit ceci: cette offensive des ADF Nalu par les FRDC est une bonne chose pour la paix et la sécurité dans le Nord Kivu. Cependant, je pense que le risque est qu'elle soit une victoire à court terme tant que le gouvernement ne songera pas à améliorer constamment les conditions de vie des FRDC.
Oui, il a tout à fait raison, théoriquement, c'est comme ça que les choses se présentent. Mais si on a fait des performances au Nord Kivu du côté de Nyiragongo et de Rutshuru, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a amélioration des conditions des FRDC. Si les mêmes performances commencent à se répéter au niveau de Beni, c'est parce qu'il y a aussi amélioration de cette condition des militaires au plan de l'organisation, au plan de la formation, au plan de l'équipement et au plan des différentes motivations. On ne peut pas mettre tout, bien sûr, sur la place publique, mais un effort est fait. Mais je donne raison à ce compatriote.
Monsieur le ministre, un message, n'est-ce pas, pour rassurer ces populations du Nord Kivu qui font face à toutes ces différentes guerres depuis plus de 20 ans?
Je voudrais, au nom du gouvernement, leur dire que dans notre collimateur, il n'y a pas seulement le M23, l'ADF Nalu et les FDLR. Il y a tous les groupes armés, tout individu, qu'il soit étranger ou national, qui prend les armes sans en avoir qualité, qui fait souffrir les populations, qui écume ces espaces pour piller, violer, voler, tuer et relancer des conflits intercommunautaires que l'on peut résoudre autrement, tout cela sont notre cible. Et nous allons soit obtenir leur reddition volontaire, c'est-à-dire qu'ils déposent les armes et articulent les problèmes communautaires qui sont les leurs de manière non violente.
Merci.
Soit nous allons les désarmer de manière forcée, comme on l'a fait avec le M23 et comme on est en train de le faire avec les ADF Nalu. C'est
Merci.
Donc ce message de disponibilité du gouvernement et des FRDC au service du peuple que je voudrais leur répéter, puisque le président l'a déjà dit et nous ne cessons de le dire nous-mêmes.
Merci, monsieur le ministre, je considère ça comme votre conclusion. Monsieur Thomas Dakimwiti, en guise de conclusion.
Ma conclusion s'articule à trois points. Il faudra accélérer la réforme de l'armée, recréer la confiance ou renforcer la confiance entre l'armée et la population. Je prends le ministre au mot, son excellence le porte-parole, qui a dit qu'il y a une enquête qui est diligentée pour savoir le sort des 873 compatriotes qui avaient été pris en otage. Nous sollicitons que cette enquête soit accélérée pour
Merci.
Que nous puissions connaître le sort de nos compatriotes, s'ils sont encore en vie.
Merci Thomas Dakin Mouti.
Voilà.
Professeur Pierre Vigence, votre conclusion?
Eh bien, la conclusion, c'est que ben, le Congo vient de faire un grand pas en avant. Hein. Déjà, il y a quelques mois, on se souvient que quand le Congo avait réussi, avec l'aide de la MONUSCO, à faire partir le M23, tout le monde se disait, pourvu que les forces armées de la République démocratique du Congo ne s'arrêtent pas là et qu'elles continuent à chasser les groupes rebelles qui nuisent dans la région.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon suivi de programme sur Radio Okapi.